à l'invitation de Martine Marzloff, je suis venu vous parler ici d'un objet peut-être un peu moins légitimement culturel que des objets issus de la littérature, puisqu'il s'agit du jeu vidéo. Moi, je suis enseignant, chercheur dans un département de cinéma et d'audiovisuel à Paris 3. Et je travaille sur l'industrie du jeu vidéo, particulièrement sur ses relations avec celle du cinéma. Je suis plutôt économiste, historien, et puis j'essaye de développer des outils d'analyse des jeux vidéo pour essayer de comprendre les contenus, ce qui se passe en termes de mécanique ludique, en termes de représentation. Et donc là, je vais vous faire à la fois un petit historique pour voir un petit peu comment évolue ce secteur et comment aujourd'hui on le voit depuis maintenant quelques années arriver tout doucement dans le domaine de des industries culturelles. Ça, c'est un fait, mais aussi que certains lui trouvent des prétentions artistiques, et en tout cas comment se construisent certains discours qui présente le jeu vidéo comme un domaine artistique. Alors, peut-être pour commencer, il faudrait voir d'où viennent les jeux vidéo. Quand et où le jeu vidéo est-il né ? Bien, le jeu vidéo est un domaine qui trouve son origine aux États-Unis. On aurait plusieurs dates, hein. C'est vrai que l'histoire du jeu vidéo, elle est toujours en cours, on trouve encore de nouvelles dates, mais en général, on s'arrête un peu sur ces deux moments-là que j'ai résumé là dans ma diapositive. Un ingénieur, un physicien américain, en 58, qui doit préparer une journée porte ouverte pour faire visiter son laboratoire de recherche au public américain. Ces laboratoires de recherche ont besoin de financement. Donc on leur demande de s'ouvrir au public pour que les gens voient un petit peu à quoi sert l'argent de leurs impôts. Et donc cet ingénieur a l'idée de permettre aux gens de manipuler des outils qui sont des outils de recherche, des oscilloscopes par exemple, et donc va programmer une application, on va peut-être pas encore dire un jeu, mais enfin une application sur laquelle il s'agit de se renvoyer un point lumineux de droite à gauche de l'écran. Cette application s'appelle Tennis for Two et elle fonctionne tout simplement sur un écran d'oscilloscope. Voilà, donc j'ai ma jolie diapositive d'entrée, et voilà donc où j'en étais. Donc on est avec William Higginbotham en 1958 dans ce Brookhaven National Laboratories à New York, et donc l'application va être ressortie d'ailleurs pendant quelques années à l'occasion des journées portes ouvertes, et les gens elle connaîtra un certain succès auprès des visiteurs de ce laboratoire. Alors quelques années plus tard, on se retrouve sur le campus du MIT, hein, l'université technologique du Massachusetts, et on est dans un groupe d'étudiants, en fait, c'est des étudiants qui s'intéressent au modélisme ferroviaire. Donc ils s'amusent à constituer des terrains pour des petits trains, et puis est livré au MIT, dans leur laboratoire, un des tout premiers mini-ordinateurs, hein, qui s'appelle le DEC PDP-1, et ces étudiants le déballent, regardent un petit peu, commencent à le manipuler, à programmer dessus, à adapter des programmes qu'ils ont déjà conçus sur d'autres machines. Et ces étudiants font partie d'une communauté particulière qu'on appelle les hackers. Alors ça n'a pas du tout la connotation péjorative que le terme revêt aujourd'hui. Les hackers à l'époque, ce sont des étudiants qui souhaitent pousser du matériel technique au plus loin des capacités, hein, que peut proposer ce matériel, et très souvent pour essayer de d'éprouver ce matériel technique, ils programment des applications qui ne sont pas du tout les applications pour lesquelles sont faites ces matériels. Le PDP-1, par exemple, c'est un calculateur. Il est là pour calculer, produire du calcul, accélérer les phases de calcul. Et ces étudiants vont décider de détourner l'usage premier de ce matériel pour lui faire afficher des graphismes. Vous avez à gauche ici, hein, l'écran d'oscilloscope, enfin là aussi un peu à la forme d'un écran d'oscilloscope rond, et donc on va pouvoir s'affronter à deux se tirer l'un sur l'autre autour souvent d'un vortex qui vous attire. Ils vont également créer une interface pour manipuler les objets sur l'écran, c'est l'image que vous avez au centre. Et voilà une application qui est intéressante parce qu'à la fois on y retrouve des éléments de jeu très rapidement, le logiciel va connaître un certain succès, ce qui fait qu'on a des compétitions de Space War sur les campus. On a un papier du magazine Rolling Stone par exemple au début des années 70 qui montre qu'en quelques années ces compétitions se sont organisées, qu'il y a un vrai engouement autour de ce jeu-là dans la communauté étudiante. On retrouve un environnement fictionnel qui est basé sur un genre populaire, la science-fiction, alors qui est à la fois justifié par le fait que, d'un point de vue graphique, vous voyez que c'est très symbolique, quelques points, quelques éléments à l'écran, le fond noir de l'écran qui justifie peut-être un fond étoilé. Et puis, on est en 1962, c'est-à-dire qu'on fête actuellement les 50 ans de cette application qui est assez déterminante dans l'histoire du jeu vidéo. La programmation a commencé en novembre 61 et la première version du jeu est livrée à peu près en février 62. On est aussi dans une période un peu de tension politique assez forte et on sait que quelques mois plus tard, au mois de mai, on va avoir la crise des missiles à Cuba et que cette question du contexte de la guerre froide, de la menace nucléaire, elle fait aussi partie du contexte sociopolitique dans lequel cette application est développée. Cette application elle est développée à MIT, mais très rapidement, elle va profiter du réseau qui préfigure Internet, mais qui lie entre elles les différentes universités américaines. Et beaucoup d'étudiants dans d'autres universités vont reprendre le code, l'améliorer. Par exemple, certains, comme amélioration, vont dire plutôt qu'on ait des points qui figurent des étoiles et que ces points soient dans n'importe quel sens, on va vraiment reprendre une carte du cosmos avec des vraies données astronomiques et on va les refaire afficher par la machine. Et puis, quelques améliorations en termes de design, de règles sont ajoutées et le programme va comme ça traverser les années 60 sur les campus américains où il connaît un très grand succès. Alors c'est intéressant parce que cette question d'image interactive et d'interactivité avec les images, on la retrouve à peu près à la même période. Je m'intéresse ici à un cas qui est souvent un peu retenu comme une des premières formes de cinéma interactif, le Kino Automate. Eh bien, on a ici une invention qui est créée par un Tchèque qui s'appelle Radouz Tchinchera, qui est présentée à l'occasion de l'exposition universelle de Montréal sur le pavillon tchèque et qui présente un récit avec différentes voies possibles, différentes bifurcations au sein d'un même récit, « A Man and His World ». Qui va être exploité pendant 2 ans, puis quelques années après, dans différents endroits, et qui propose ici à des salles, avec simplement un système de vote et de boîtier, de choisir quel embranchement on va décider de prendre dans un récit par rapport à une situation qui nous a été présentée. Ce qui est intéressant, c'est que des statistiques vont être menées sur cet objet interactif, et on se rend compte à l'issue de l'exploitation à Montréal que une grande majorité des salles a choisi globalement le même chemin narratif, c'est-à-dire qu'il y avait la liberté du choix, mais d'une certaine façon, les codes, les règles, les conventions de la fiction se sont un peu imposées à ces spectateurs qui n'ont fait finalement que reproduire des choses qu'ils connaissaient déjà en termes de récit et ont préféré peut-être aller vers une fin heureuse plutôt qu'une fin pessimiste. Alors, pour vous montrer un petit peu le contexte dans lequel naît le jeu vidéo et que sa considération comme art part d'assez loin, on a un acteur assez intéressant. Je vais hésiter de faire une histoire qui tournerait autour d'une théorie des grands hommes du jeu vidéo, mais enfin voilà un ingénieur en tout cas qui avait de la suite dans les idées, puisqu'il, dans les années, début des années 50, il avait déjà constitué un projet, un prototype de téléviseur haut de gamme qui aurait pu insérer un modèle ludique à un poste de télévision. Je dis qu'il aurait pu parce que les dirigeants de la société d'électronique qui s'appelle L'Oral et qui produisent ces postes de télévision, refuse ce prototype, refuse ce projet, considérant que ce n'est pas là que sont les attentes du public. Hein. Il ne s'agit pas d'interagir avec un écran, mais il est plutôt préférable de travailler sur la diagonale de l'écran, sur la qualité des enceintes pour la restitution du son, etc. Mais Ralph Baer, hein, qui est allemand d'origine, installé aux États-Unis depuis de nombreuses années, poursuit dans cette idée et à la fin des années 60 a constitué un second prototype qui s'appelle la Brown Box, qui va être vendu à un fabricant d'électronique et va être commercialisé au début des années 70 sous le nom de Odyssey, et qui est très souvent retenu comme la première forme de console de jeu multicartouche. Alors la réflexion de Baer, elle est très simple, hein, c'est-à-dire que dans les années 60, il se dit, mais finalement, aujourd'hui, 80% des foyers américains sont équipés d'un poste de télévision. Et donc j'ai là, de façon assez certaine, la possibilité de pouvoir diffuser des images sur ces écrans de télévision. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais des hackers hein, tout à l'heure, cet esprit du détournement, ce goût du détournement des objets techniques, et bien c'est tout à fait la même chose qui va se passer là, parce que un poste de télévision des années 70, vous n'avez pas de prise RCA, encore moins de prise Péritel, et le seul moyen de faire rentrer un signal sur cet écran de télévision, c'est de débrancher le câble de la prise antenne, ou du câble, pour mettre un câble relié au périphérique qui va envoyer ce signal, une simulation de ping-pong par exemple, qui est très fameuse sur cette console-là. Voilà, donc on retrouve ici un petit peu cette logique qui fait partie un peu des constantes du domaine du jeu vidéo. D'ailleurs, c'est assez intéressant, hein, parce que cette console Odyssey, elle préfigure des usages qui vont être ceux de la télévision 5 à 10 ans plus tard, avec l'arrivée de la vidéo domestique, des formats. Le format gagnant des années 70, c'est la VHS, mais il y avait eu d'autres formats, hein, le V2000, le Betamax, et qui avait constitué le poste de télévision comme terminal alphanumérique et pensé cette idée des périphériques qu'on associerait à ce poste de télévision. Alors, on passe, vous voyez, du domaine des laboratoires de recherche, du domaine des campus universitaires, du domaine de la recherche et du développement des entreprises d'électronique grand public, à celui du divertissement dans les années 70. Hein. Les domaines dans lesquels naît le jeu vidéo sont d'ailleurs très souvent financés par l'armée. Et les financements de l'armée ont largement servi au développement de ce secteur-là, ce qui peut-être peut expliquer que les thématiques militaires ont été largement présentes dans le domaine du jeu vidéo, le sont encore très, très souvent. Alors, il y a un cas assez emblématique hein, de ce passage du laboratoire à la salle de jeu, et une personne un petit peu pivot, c'est Ralph Baer. Ralph Baer est le fondateur d'Atari. Nolan Bushnell, il s'appelle Nolan Bushnell. Nolan Bushnell est le fondateur d'Atari, et dans les années 60, il est à la fois étudiant, donc il joue à Space War sur les campus de son université, et en même temps, comme petit boulot, il travaille au parc d'attractions de la région. Et lui se dit, tiens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de faire venir ces écrans, de faire venir ces machines, et de les constituer en outils de divertissement? Alors, Nolan Bushnell va fonder Atari et va être le créateur d'un des premiers grands succès du jeu vidéo d'arcade, celui qui se joue qui se paye à la partie et se joue dans les lieux publics, qui sera Pong. Alors Pong, le voilà, hein, vous connaissez cet écran de jeu. C'est pas le premier jeu qu'essaye de commercialiser Nolan Bushnell. Il a un premier jeu qui s'appelle Computer Space et qui est inspiré assez largement de Space War, bien qu'il change un petit peu la formule du jeu. Computer Space connaît un nombre de ventes assez intéressant, mais n'est pas un succès très important, puisqu'en fait, il nécessite de lire une notice qui est très longue. C'est un peu fastidieux de comprendre un peu comment jouer à Computer Space, et donc constatant ce problème-là, il va retravailler avec son ingénieur Al Alcorn a une idée un petit peu plus simple et ils partent sur l'idée d'une simulation de tennis ou une simulation de ping-pong qu'on appellera Pong, avec, et vous l'avez ici, c'est la photo qui est en dessous, je sais pas si c'est très lisible, oui à peu près, mettez une pièce de 25 cents, la balle se mettra en jeu automatiquement et éviter de laisser filer la balle pour atteindre le high score. Voilà. En trois phrases, le joueur sait comment fonctionne le jeu et peut tout de suite se mettre aux commandes et éprouver le plaisir du jeu sans avoir à passer par un apprentissage de règles très très long et très ennuyeux. Donc on a ici le passage par une forme qui est celle de la simulation. On a une première vague d'engouement sur le jeu vidéo, puisque vraiment Pong est un succès très large, qu'il va largement développer l'idée que, en effet, l'informatique peut être un support qui va un peu renouveler les anciens flippers, les jeux de fléchettes, etc., dans les salles de jeu. Et on peut même dire qu'il est synonyme de jeu vidéo pendant presque deux à trois ans, puisque tout ce que va produire et Atari d'un côté et puis les concurrents, c'est-à-dire souvent des constructeurs de flippers qui s'intéressent à cette nouvelle forme de jeu, sont plus ou moins des ersatz et des reprises du Pong. Hein. Alors quelques icônes un peu de cet âge d'or, toujours dans une poursuite de la formule du Pong et un jeu qui s'appelle Breakout, qui a donné en français le genre casse-brique, hein, que vous avez peut-être connu. C'est un jeu qui est commercialisé en 1976, toujours sur forme de borne d'arcade. En France particulièrement, c'est un jeu qui va vraiment initier une deuxième vague d'engouement très forte sur le jeu vidéo, qui va vraiment amorcer l'arrivée des jeux vidéo dans ce qu'on appelle à l'époque les kermesses, voilà, les salles de jeux foraines dans lesquelles on peut s'adonner à ce type de jeu. Puis ce qui est intéressant, c'est que derrière Breakout, il y a deux personnages bien connus de l'industrie de l'informatique, Steve Jobs et Steve Wozniak. Hein. Jobs est employé d'Atari à l'époque. Il répond à un appel d'offres de Nolan Bushnell qui demande à ses employés de réduire le nombre de composants sur les plaques des jeux. Lui est pas un très bon technicien, hein, Steve Jobs. Par contre, c'est quelqu'un qui a des très bonnes relations. Et dans ces relations, il a un génie qui s'appelle Wozniak. Et Wozniak, en 4 jours, va réduire par 3 ou 4 le nombre de composants nécessaires à faire tourner le jeu. Jobs va empocher la prime de Bushnell en en donnant une petite partie à Wozniak, qui la prendra bien des années plus tard et en sera fort marié. Mais voilà, on retrouve là dans ce jeu-là, déjà aussi, hein, par ce domaine-là, se préfigurent un peu les grandes positions de domination qui sont celles du monde de la micro-informatique. Space Invaders, intéressant, objet assez remarquable de ces années 70. C'est un éditeur japonais, hein, cette fois-ci, qui arrive, et on voit que très rapidement, le jeu vidéo, qui est bien né sur le territoire américain, dont la première major, hein, d'une certaine façon, est américaine, avec Atari, qui est pourtant un terme japonais, hein, qui est issu du jeu de Go, mais c'est une société complètement américaine. Mais les Japonais qui observent ce qui se fait dans le domaine de l'informatique, de l'électronique, dès fin 74, début 75, proposent aussi des jeux vidéo. Et ici, on a vraiment là à nouveau une reprise d'un imaginaire de genre qui est complètement ancré dans la science-fiction. Ça crée un genre vidéoludique, hein, qui sera appelé aux États-Unis le shooter, le jeu de tir ou le shoot'em up. Mais en même temps, on voit qu'avec les contraintes qui sont celles de l'affichage d'un écran de jeu, les contraintes techniques, hein, les capacités des machines, il y a l'invention d'une matière visuelle qu'on appelle aujourd'hui l'art 8-bit, le 8-bit art, provient d'une difficulté à pouvoir créer des objets qui soient figuratifs ou qu'ils le soient un tant soit peu d'une certaine manière. Vous avez ici, il y a quelques années, à l'occasion d'une exposition, l'un des graphistes du jeu, hein, c'est des toutes petites équipes à l'époque, ils font un peu tout, ils programment, ils codent, ils créent les règles du jeu, mais on voit ici la manière dont, à gauche, il imagine des formes animales, le crabe, la méduse, la pieuvre, ou extraterrestre, avec cette espèce d'ovni, et puis va essayer de coder ces objets sur une grille à peu près, je sais pas, de 16 ou 18, 18 de large sur 10 de haut, pour essayer de former ces objets-là. Et finalement, peut-être que vous avez vu à Lyon, ou en vous baladant dans les grandes villes de France ou du monde, à Paris particulièrement, bah, ça a inspiré par exemple un artiste de rue qui s'appelle Invader et qui va coller, on les retrouve assez régulièrement, ces mosaïques qui reprennent à la fois parfois en citant très clairement les objets visuels inventés par Space Invaders, parfois en créant des formes un peu nouvelles, mais inspirées en tout cas de ces motifs graphiques. Bon, troisième icône importante, je vois que les souvenirs reviennent, c'est probablement Pac-Man, hein, qui est vraiment là aussi un moment assez décisif de l'exploitation des jeux vidéo. À nouveau un jeu japonais, vous allez voir que sur mes derniers exemples, je n'ai que des jeux japonais, hein, c'est dire aussi la puissance en termes d'influence culturelle qui est celle du Japon à la fin de ces années 70 et qui va gagner et conforter dans les années 90 et 2000. C'est un jeu de 1980. Il invente là aussi un genre à l'époque. Hein, tous les grands succès, d'une certaine manière, créent leur propre genre. Ici, le jeu de labyrinthe, le Maze Game. On a vraiment là la première grande icône du jeu vidéo parce que c'est un personnage, Pac-Man, parce que visuellement il est très très reconnaissable par sa couleur. Premièrement, par sa forme très dynamique, hein, ce mouvement de mâchoire qui s'ouvre et se ferme. Et puis en même temps, c'est un jeu assez intéressant à analyser du point de vue des représentations qu'il propose. C'est un jeu qui est produit à la fin des années 70 avec un temps de production assez long, hein, par rapport au... Pratiquement, il faut un an et demi, hein, entre le début du projet et la sortie du jeu, alors qu'à l'époque, on est plutôt sur des délais de 3 à 6 mois. On a un monsieur qui s'appelle Iwatani qui est à l'origine du projet, qui invente d'une certaine manière une fonction particulière qui est celle de game designer. Lui, il n'est pas programmeur, il n'est pas codeur, il sait à peu près comment fonctionnent les machines, mais il a une équipe qui est faite ça pour lui. Par contre, lui va penser le système de jeu, imaginer le fonctionnement global du jeu et ensuite travailler avec ses programmeurs et ses informaticiens pour la réalisation technique du programme. C'est un jeu... Iwatani dit à l'époque que la lettre de mission de Namco, c'était d'essayer de conquérir un public féminin. Et alors, vous m'excuserez, mais enfin, en tout cas, c'est dans les déclarations qui sont celles d'Iwatani. Iwatani se demande, bah, qu'est-ce qu'aiment les femmes? Les femmes aiment manger. Et donc, à partir de ce constat, on va imaginer un jeu où il s'agit de manger. Il s'est pas trompé, hein, parce que probablement dans la production de jeux vidéo de la fin des années 70 et du début des années 80, Pac-Man est vraiment un jeu qui a trouvé un public très majoritairement, très féminin en tout cas. Alors c'est un jeu d'une certaine façon qui nous invite à nous interroger sur la consommation, parce que la consommation de Pac-Man est sans fin, d'une certaine manière. Il faut vider de toutes ces pilules ou ces pastilles l'ensemble de l'écran de jeu. Et puis une fois que vous avez vidé l'écran, bah, un autre écran apparaît, et ça de manière indéfinie, puisqu'on est dans une logique de jeu d'arcade, où la difficulté est progressive, et d'une certaine façon, le jeu est fait pour vous faire perdre à un moment, et pour réinsérer une pièce de 25 cents. Ce qui est intéressant, c'est que Pac-Man lui-même, quand il se fait toucher par un des quatre fantômes qu'il poursuit, se dévore lui-même d'une certaine manière, parce que l'animation du sprite, c'est à ce moment-là sa mâchoire qui s'ouvre et d'une certaine façon qui fait le tour de son corps et qui l'avale et qui disparaît dans un petit éclat. Donc la raison d'être de Pac-Man, c'est de manger, et d'une certaine façon, voilà un jeu qui est produit par un pays, le Japon, qui est en plein boom économique depuis l'après-guerre, particulièrement les années 60 et les années 70, qui a accédé à la consommation de masse et qui d'une certaine façon produit un discours par le biais de ce jeu vidéo-là, qui connaîtra un succès international, autour de ces principes de consommation. Alors, la deuxième image que j'ai mis en illustration, c'est qu'aussi ce personnage va être le premier à être adapté en dessin animé et donc à connaître des développements et du merchandising, hein, comme le fait très largement l'industrie du loisir aux États-Unis à cette époque. Et entre autres, Pac-Man connaît plusieurs saisons qui sont diffusées le samedi matin aux États-Unis dans ce qu'on appelle les Saturday Morning, hein, ce qui est la grande tranche horaire du public jeunesse aux États-Unis. Et va devenir une vraie icône de l'époque avec un disque Pac-Mania, par exemple, qui a un grand succès des charts de disques également au début des années 80. Voilà, ce qui veut bien dire la d'une certaine façon la force un peu qui est celle de ce domaine, sa vivacité, sa capacité à diffuser des images, des imaginaires dans la société, les sociétés occidentales et japonaises. C'est également un jeu hein, qui sera, enfin le nombre de machines d'arcade enfin se compte en centaines de milliers, en plusieurs centaines de milliers, mais qui sera très largement piraté. Mais le piratage du jeu participera grandement à sa popularité également. Alors troisième cas japonais, et puis là j'en terminerai un petit peu sur que je vais appeler cet âge d'or, hein, parce que de début des années 70 jusqu'à 1983-84, où le jeu vidéo connaît sa deuxième crise, mais qui est sa grande crise en fait, hein, qui est vraiment un moment d'effondrement complet du secteur, où on pense que le jeu vidéo est un moment du marché, hein, il est en tout cas analysé comme ça à cette époque, un moment du marché qui s'est terminé, qui préfigurait de nouveaux usages, la micro-informatique. Mais donc dans cette période de l'âge d'or, ce jeu, Donkey Kong, jeu japonais également, un éditeur, Nintendo, qui est une société centenaire hein, et qui s'est intéressée à l'électronique dès la fin des années 70. Et bon, alors je rentre pas dans les détails, mais c'est un jeu qui, pour des raisons d'une certaine façon des raisons d'organisation, est conçu pour le territoire américain. Il se trouve que Nintendo a exporté aux États-Unis plusieurs centaines de bornes d'un jeu qui s'appelait Radarscope, que le jeu n'a pas connu beaucoup de succès aux États-Unis. Et donc on demande à deux ingénieurs de chez Nintendo de concevoir un programme qu'on va pouvoir mettre dans ces bornes qui sont déjà sur le territoire américain, et en leur demandant de faire un jeu qui soit adapté aux contraintes techniques qui sont celles de ces bornes Radarscope déjà aux États-Unis. Alors, pensant pour le territoire américain, ces designers, ils s'appellent Gunpei Yokoi et Shigeru Miyamoto, vont reprendre une figure du fantastique cinématographique hollywoodien, qui est King Kong, hein, bien évidemment, et pour le coup, enfin une vraie figure de cinéma, parce que King Kong est un scénario original, hein, contrairement au Dracula, au Frankenstein, aux hommes invisibles qui nourrissent toute cette production de la Universal des années 30. Le scénario de Shutzak et Cooper est un scénario original qui s'inspire bien évidemment hein, de motifs traditionnels du fantastique et de la littérature d'aventure, mais il y a vraiment cette idée de s'appuyer sur cette figure-là, qui est à la fois une figure qui a traverser les époques, parce que par exemple elle est l'objet d'un remake en 1976 dans un film de John Guillermin, qui a traversé également les frontières, puisque au Japon la Toho, qui produit les films Godzilla, a racheté à Universal les droits sur King Kong et a produit un film dans les années 60, King Kong versus Godzilla, où les deux géants s'affrontent. Donc il y a une sorte de permanence dans les imaginaires de cette figure qu'on va pouvoir réutiliser. On va également travailler une formule, alors Donkey Kong l'invente pas, mais en tout cas est un des jeux qui va largement participer à la popularité des jeux de plateforme. Et là aussi, hein, on retrouve une production japonaise et un succès dans l'arcade qui va mettre Nintendo en place d'être un acteur majeur du domaine du jeu vidéo dans les années 80. Alors il est intéressant ce jeu Donkey Kong parce que il fonctionne vraiment à la manière d'un patchwork d'imaginaire. Hein. Bien évidemment King Kong, on l'a dit, Mais si je prends cette photo très connue de New York, lunchtime on a sky top, ou bien évidemment ce qu'a fait le dessin animé, et particulièrement le cartoon hollywoodien, entre autres en reprenant ce motif des poutrelles métalliques rouges, on voit très bien comment cette création de jeux vidéo sait se ressaisir. Parce que bien évidemment, elle a des contraintes, hein, même si ici on peut utiliser presque 8 couleurs différentes, même si les graphismes commencent à être un peu plus figuratifs qu'ils ne l'étaient 2 ou 3 ans auparavant avec Space Invaders, il faut quand même parer au déficit figuratif qui est celui du jeu vidéo, et donc aller chercher dans les représentations qui sont celles du public des éléments visuels que le public va tout de suite pouvoir identifier et tout de suite comprendre, par exemple, que le jeu se joue de bas en haut, hein, et de tout de suite comprendre que c'est pas le gorille qu'on incarne, mais plutôt le petit personnage à moustache et bedonnant qui se retrouve en bas de l'écran. On retrouve la demoiselle en détresse, enfin leur motif serait courant du conte, par exemple, qui est en haut de cet écran, qui appelle à l'aide. Et donc, on a la possibilité de construire une lecture de l'écran de jeu très rapide du côté du joueur, parce qu'on est dans un système de jeu d'arcade et qu'il faut tout de suite pouvoir se mettre aux manettes pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Et puis, y a un petit avatar qui est quand même intéressant, hein, dans ce jeu Donkey Kong qui s'appelle pas encore Mario à l'époque. Alors, certaines versions disent qu'on l'appelle Jumpman, l'homme qui saute. D'autres, du côté japonais, disent que les Japonais l'appelaient Osan. Alors Osan, ça pourrait se traduire comme un peu le quadra, enfin le type entre deux âges, quoi. C'est un peu la traduction qu'on pourrait faire de ce terme-là. Bon, c'est un avatar qui est adapté aux capacités graphiques du hardware, mais il y a une certaine façon une recherche d'expressivité de cet avatar, hein, qui est celle de Miyamoto, son designer. Par exemple, il décide de lui mettre une casquette pour une raison très simple, c'est qu'il se dit, vu que le personnage doit courir, s'il court, le joueur attendra qu'on ait une animation de la chevelure. Et elle est très difficile à mettre en œuvre et à animer sur la machine. Et puis, ce petit personnage a une moustache. Alors pourquoi Mario a une moustache ? C'est pas un choix particulièrement lié à la mode. Non, c'est parce que il fallait pouvoir différencier son nez de son menton, puisque le personnage devait être codé sur un nombre de pixels assez réduit. Et finalement, la moustache permettait d'avoir une lisibilité très très directe de ce visage. Et puis, si on regarde les proportions de cet avatar, on voit que son visage correspond à peu près à un tiers de sa taille totale, donc il ne respecte pas du tout des proportions du corps humain, mais il est déjà en train de regarder du côté de codes graphiques qui sont ceux de l'animé, du manga japonais, hein, et il sait très bien s'en ressaisir. Et puis c'est un jeu qui travaille déjà la notion de mouvement, hein, le personnage court, saute, grimpe, escalade, et d'une certaine façon, dans cette idée-là, on peut retrouver chez Mario des éléments qui rappellent le corps burlesque, hein, celui d'Harold Lloyd par exemple, de Buster Keaton, souvent d'un personnage qui est confronté à son environnement, qui doit essayer de le traverser, qui doit faire des cascades, qui participe au spectaculaire du burlesque. Alors, peut-être pour vous illustrer ça, je vais vous montrer un montage qui a été fait par un collègue catalan, qui est Manuel Garin. Et donc, il s'est amusé à comparer Fiancé en folie, hein, avec Buster Keaton, avec quelques écrans de jeu. Non. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas l'avoir là-haut. Thank you. Alors, on voit qu'il y a une forme de parenté un peu devant ces deux images. Alors certes, on est bien d'accord, hein, le dispositif de réception est pas le même entre être devant son écran de télévision et être dans une salle de cinéma. La justification diégétique est pas la même entre quelqu'un qui est poursuivi et un avatar qui progresse à travers un niveau, mais on est un peu frappé à la fois par les mouvements d'appareil, ceux du film avec Buster Keaton, ceux qui sont générés, hein, par la machine informatique, également l'échelle de plan, hein, qui est utilisée d'un côté et de l'autre et qui essaye vraiment de situer soit l'acteur, le personnage, soit l'avatar dans un environnement très souvent qui lui est assez hostile. Et on se dit finalement qu'il y a un plaisir à voir ces images, plaisir d'un spectaculaire de l'autre, enfin d'un côté et de l'autre, plaisir du côté du jeu vidéo à être l'organisateur d'une certaine façon dans la position d'interacteur avec ces images là. Je vous ai montré qu'un des montages de Manuel, mais vous pouvez très facilement les retrouver, hein, vous faites gameplay gag, voilà, sur Google, gameplay gag. En gameplay en un mot, gag plus loin. Et donc vous verrez, Manuel a constitué 6 ou 7 montages différents dans lequel il compare Douglas Fairbanks par exemple avec certains jeux d'aventure, des films de Douglas Fairbanks avec certaines séquences de jeux d'aventure, des petits films d'attraction du cinéma des premiers temps avec des formes ludiques, par exemple comme le Tetris ou les jeux de réflexion, et pour montrer vraiment que il y a parfois des motifs, et c'est assez troublant, hein, qui sont visuellement très 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 proches. Alors, voilà, je poursuis pour commencer un peu à rentrer. On voit, hein, le domaine des laboratoires de recherche, puis celui du divertissement, de foire. C'est drôle d'ailleurs, hein, parce que le divertissement de foire, c'est de là aussi d'où provient le cinématographe. Et puis, on a une période, hein, je vous la fais à grands traits, mais qu'on pourrait appeler un petit peu l'ère des Nintendo Kids, c'est-à-dire que c'est une décennie qui va être largement dominée par l'industrie japonaise, et Nintendo en premier lieu, hein, qui est une, comme je vous le disais tout à l'heure, une compagnie quasiment centenaire à cette époque, hein, puisque Nintendo est un fabricant de cartes à jouer au départ. Et on va avoir un peu une réorientation du marché, entre autres Nintendo, et principalement Nintendo of America pour être très précis, donc la filiale américaine de Nintendo va largement réorienter le jeu vidéo du côté d'un public d'enfants, va énormément travailler sur mascotte pour constituer, enfin sur Mario pour le constituer en mascotte et en faire un de ses arguments de communication, et puis va mettre en place un contrôle des contenus très très fort, un peu à la manière de Disney, hein. Mais c'est une période donc qui met en place un petit peu cette idée que le jeu vidéo est un domaine qui s'adresse aux enfants, ce qui n'était pas le cas du jeu vidéo des années 70, et on va se voir se mettre en place 3 marchés au niveau international, c'est-à-dire le marché japonais, le marché nord-américain et le marché européen. Alors, c'est un peu à la fin de cette période, et puis la période qui va suivre, où on va voir arriver Sony, puis Microsoft dans le domaine des consoles de jeux, par exemple, qu'on va tout doucement passer d'une industrie du divertissement à des discours qui vont considérer que le jeu vidéo est une industrie culturelle. Donc on a la constitution progressive d'une légitimité culturelle du jeu vidéo. Par exemple, dans une forme de mise en concurrence avec le cinéma, avec l'arrivée des supports optiques, donc le CD-ROM, le laserdisc un petit peu avant, le CDI, dans le domaine de l'informatique et celui des jeux vidéo, on va voir arriver par exemple des séquences, hein, qu'on appelle des séquences cinématiques, vous savez, ces petits films, enfin ces courtes séquences spectatorielles qui vont introduire un jeu ou sanctionner la fin d'un niveau ou la fin d'un jeu. On va voir arriver de l'image en prise de vue réelle, hein, dans les jeux vidéo. Il y a un moment de la production de jeux vidéo entre 91 et 96, 97 à peu près, pendant 5-6 ans, où l'industrie du jeu vidéo va beaucoup faire appel aux acteurs, les faire tourner sur fond vert, les intégrer à des séquences de jeux vidéo. Et on voit se développer dans le jeu vidéo des ambitions scénaristiques. Alors, on en trouve dès les années 80, parce qu'il y a aussi l'influence du jeu de rôle qui est très forte sur ce domaine. Mais c'est vrai qu'avec la possibilité de produire des séquences vidéo intégrées au jeu, par exemple, certains studios vont aller débaucher des scénaristes ou des producteurs d'Hollywood pour diriger l'écriture de jeux vidéo. Donc, il y a d'une certaine façon une forme de mélange des genres qui se produit, et un rapprochement au début des années 90 du jeu vidéo avec le cinéma. Je parle même pas de la progression des graphismes, la course au photoréalisme et des éléments là aussi qui semblent chaque fois nous montrer que le jeu vidéo souhaite se comparer ou souhaite produire des images aussi belles, aussi bluffantes que celles d'un cinéma particulier qui serait un cinéma de consommation courante. On a également dans les années 90 l'arrivée de créateurs extérieurs au domaine, et ces créateurs très souvent ils viennent de domaines de la culture et de l'art qui sont un petit peu plus légitimes culturellement que le jeu vidéo. Moebius par exemple, hein, Jean Giraud, le dessinateur de bande dessinée, va prendre part à des recherches graphiques pour un éditeur japonais qui est Sega, hein, autour d'un jeu qui s'appelle Panzer Dragoon au début des années 90. Benoît Sokal, le professeur Canardo, enfin un personnage, c'est ça, oui. Pardon. L'inspecteur Canardo, va également être assez séduit par la production de jeux vidéo, et donc va sortir plusieurs jeux comme Siberia par exemple dans les années 90 et le début des années 2000. Si je vais du côté du cinéma, Danny Elfman, le compositeur attitré de Tim Burton, va être débauché pour écrire quelques partitions pour l'industrie du jeu vidéo. Même Steven Spielberg dans les années 90 montre son intérêt pour le jeu vidéo, hein. Il y a des photos assez célèbres où on le voit en train de discuter avec Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario. Donc il y a ces talents extérieurs qui progressivement vont s'intéresser au jeu et vont être intégrés parfois à des productions de jeux vidéo. Et puis on retrouve des processus plus classiques, hein, d'ailleurs qu'on pourrait retrouver autour du cinéma, hein. Par exemple la création d'une filière de formation au métier du jeu vidéo. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il existe en France des filières de formation jeu vidéo au Centre National des Arts et Métiers par exemple, à Angoulême, avec l'ENGMIN, hein, qui est l'école nationale des jeux vidéo, médias interactifs et numériques, des écoles d'ingénieurs également qui créent, inventent des filières consacrées à la création de jeux vidéo, au graphisme, au caractère design, au level design, etc., etc. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est que moi-même, je deviens un peu, enfin, si je m'intéresse aux questions de légitimation, je deviens un peu un objet d'étude parce que j'ai été recruté à Paris 3 sur une thèse qui avait été consacrée aux jeux vidéo et on n'était pas beaucoup et on n'est pas encore beaucoup, mais ça commence à se développer à avoir consacré, enfin presque avoir osé consacrer nos thèses aux jeux vidéo. Bon, il se trouve que Paris 3, qui est probablement le plus gros département de cinéma en France, avec plus de 130 enseignants, chercheurs, enfin 130 enseignants en tout cas qui travaillent là-bas, dans un recrutement qu'ils ont fait cette année, on choisit un type qui avait travaillé sur les adaptations de films de cinéma en jeux vidéo. Donc, très certainement, et je le vois, parce que ce qu'on m'a demandé de faire tout de suite, c'est de proposer dans la grille, dans l'offre de cours du département, de faire 5 cours sur le jeu vidéo. Les filières de formation. Alors la reconnaissance culturelle, on va également avoir plusieurs événements, et certains très très récents. Renaud Donnedieu de Vabre, à l'époque ministre de la Culture, décore 3 game designers, game producteurs différents qui sont faits chevaliers dans l'ordre des arts et des lettres. Je vous avoue, je sais pas, Michel Sardou, Mimi Mati sont aussi chevaliers dans l'ordre des arts et des lettres, donc on en fait. Mais bon, il se trouve que jusqu'à présent, dans ce domaine-là, il y avait pas grand monde dans le domaine du jeu vidéo. La photo que vous avez là, c'est donc Michel Ancel qui travaille chez Ubisoft sur Rayman, que vous connaissez probablement. À côté de lui, en costume marron, c'est Frédéric Rénal qui a travaillé sur Alone in the Dark. Renaud Donnedieu de Vabre, et puis Shigeru Miyamoto, qui avait été décoré ce jour-là également. Du côté des pouvoirs politiques, des institutions culturelles, on reconnaît le jeu vidéo. Alors, bien évidemment, il y a des vues politiques très marquées derrière. Voilà, une forme de modernité, d'intérêt pour les domaines dans lesquels la France se fait connaître et où on reconnaît le talent des créateurs français. Hein. Ubisoft est la quatrième ou la troisième plus grand éditeur de jeux vidéo au monde. Et c'est vrai que on va voir, si on observe un peu les discours de la presse généraliste autour du jeu vidéo, hein, si je regarde ce que peut écrire Le Monde, Libération, Le Figaro sur le jeu vidéo entre les années 90 et les années 2000, on va voir tout doucement le game designer être constitué en auteur, hein, et qu'on voit très souvent, alors c'est d'abord le terme créateur qui va être utilisé, puis le terme auteur, Olivier Séguret dans les pages de Libération, hein, qui est critique de cinéma, qui critique le jeu vidéo depuis 15 ans dans les pages de Libération, et quelqu'un qui rechigne pas à utiliser le terme auteur. Alors parfois il y a même le terme réalisateur qui est importé du champ du cinéma, qu'on va retrouver, moi je l'ai vu à plusieurs reprises dans les pages du Monde ou de la Libre Belgique par exemple. Donc il y a cette idée de reprendre là aussi des cadres, des perceptions qui se sont déjà instituées au cinéma. Enfin, les auteurs au cinéma, ça pose plus vraiment question aujourd'hui, mais qui sont peut-être pas adaptés à ce qu'est un jeu vidéo, parce qu'un jeu vidéo, c'est des équipes aujourd'hui qui sont beaucoup plus larges encore que celles qui peuvent être rassemblées autour d'un film de cinéma. C'est une création éminemment collective, et contrairement au cinéma, ce que me disait l'autre jour quelqu'un qui travaillait pour Ubisoft, c'est que c'est des gens, certes, qui travaillent ensemble sur un projet, mais qui travaillent non pas successivement, comme c'est le cas au cinéma. Bon, bah oui, il y a pré-production, on tourne le film, on est ensuite en post-production, donc on va avoir différents corps de métier qui vont intervenir. Mais enfin, le décorateur, une fois que c'est tourné, il ne va pas revenir en salle de montage rajouter quelque chose. Dans le jeu vidéo, tous ces gens-là doivent continuellement travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qui vont devoir être modifiées et qu'on a alors parfois des projets qui commencent avec une cinquantaine de personnes, mais qui peuvent terminer autour de 300 ou 350 personnes qui sont rassemblées à travailler sur sur cet objet-là. Donc, c'est vrai que cette question de la création collective, on voit se poser encore à nouveau sur le jeu vidéo, des cadres qui sont peut-être pas forcément adaptés à ce qu'est ce jeu vidéo. Et puis il y a l'entrée au musée, hein, le CNAM avait proposé une exposition, c'est la vignette que je vous ai mis en bas à droite, qui était Museo Games il y a 2 ans. Le musée du jeu vidéo a ouvert un peu de façon éphémère au sommet de l'Arche de la Défense, puis pour des raisons à la fois plutôt politiques, entre autres sur l'usage de ce qu'on allait faire des salles sous la dalle de la Grande Arche, il a dû fermer assez rapidement. Et puis si vous allez à Paris et que vous vous rendez au Grand Palais aujourd'hui, une exposition consacrée aux impressionnistes et puis une autre consacrée à Matisse ou je ne sais pas, vous avez une aile du Grand Palais en ce moment qui accueille une exposition qui s'appelle Game Story et qui propose de jouer à, je ne sais plus quel est le chiffre, mais enfin ça doit être à peu près 80 jeux différents avec mise en contexte historique, etc. Donc le jeu vidéo, et ça ne désemplit pas, enfin je jure que c'est pareil que le samedi, c'est plus de 4 heures de queue pour pouvoir rentrer à l'exposition. Donc ça fonctionne comme les grandes expositions d'art pictural, par exemple. Alors l'auteur dans le jeu vidéo, c'est assez intéressant parce que à la fois c'est une construction des discours, et puis comme au cinéma, hein, c'est une construction de l'industrie. Moi je vous présente ici Hideo Kojima, qui est mentionné sur le boîtier, hein, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais la dernière ligne c'est Hideo Kojima Production, donc une production Hideo Kojima. Il fonctionne à la manière de Hitchcock dans les studios dans les années 50. Enfin, les studios hollywoodiens faisaient tout à fait la même chose avec Hitchcock, qui était ce profil très reconnaissable, qui était un argument de vente. Le dernier film à suspense le dernier film du maître du suspense. Et il y a bien évidemment une utilisation par l'industrie elle-même de l'auteur comme argument de vente auprès des joueurs. Miyamoto lui-même, hein, qui pendant plusieurs années est complètement resté un anonyme, a été depuis le début des années 90 mis progressivement au devant de la scène par Nintendo, hein, alors même que les travaux qui reviennent aujourd'hui montrent que voilà, Mario est une création complètement collective de différents studios de développement au sein de Nintendo. Et que finalement Miyamoto n'est qu'un gestionnaire un petit peu de ce qu'on fait de ce personnage, même, et puis son investissement sur les jeux s'est largement réduit depuis le début des années 90. Bon, je vais vous dire, tout n'est pas gagné non plus, hein. Voilà une couverture de Télérama qui est pas si vieille, hein, qui date d'il y a quelques mois. Arrière toute la culture du doudou. Et qu'est-ce qu'on a dans cette culture du doudou? Vous reconnaissez mes petits fantômes, mon petit Pac-Man, mes petits champignons du monde de Mario, mes petites fleurs également du monde de Mario, qu'on va associer avec Casimir, Hello Kitty, etc. Et qui illustre un article très condescendant, hein, d'une certaine façon, sur, je vais dire, les cultures populaires en général, et en tout cas associe largement le jeu vidéo à cette forme de culture commerciale, éminemment commerciale et éminemment régressive d'après l'auteur du papier. Donc voilà, on voit que c'est des processus qui se constituent, des discours qui apparaissent, qui parfois sont pas pleinement acceptés, mais enfin qu'il y a en tout cas une évolution très forte dans la manière aujourd'hui de parler du jeu vidéo. Alors pour conclure la séance, il me reste une dizaine de minutes, ça devrait aller. Je voulais vous présenter quelques profils intéressants, à la fois parce que ils sont très souvent, c'est très souvent les exemples qui vont être pris par les les défenseurs du jeu vidéo comme art. Enfin, vous comprenez, moi, je suis pas venu ici vous dire que le jeu vidéo est un art ou quoi que ce soit. Je suis vraiment venu ici vous présenter les discours, l'évolution des discours, etc. Mais en tout cas, dans ces discours qui cherchent à légitimer le jeu vidéo comme art, on retrouve très souvent cités ces cas-là. Alors, le premier cas que j'ai retenu ici, c'est un artiste contemporain japonais qui s'appelle Toshio Iwai. Il est formé au département des beaux-arts de l'université de Tsukuba, et c'est quelqu'un qui s'est fait connaître depuis le milieu des années, depuis le début des années 90, pour des installations interactives. Donc, très souvent, en utilisant des premiers prototypes de tables tactiles, des vidéoprojections interactives, etc. Donc, vous pouvez noter, hein, je vous ai mis là quelques cas qui avaient été retenus, et on peut trouver assez facilement des vidéos sur Internet de ces dispositifs. Resonance of Four, Piano, Composition on the Table. Et puis, c'est quelqu'un qui va être approché par l'industrie du jeu. Par exemple, l'éditeur qui s'occupe de la simulation SimCity, que vous connaissez probablement, qui avait décidé de développer sa franchise. Donc, il y avait SimCopter, une simulation d'hélicoptère, SimAnts, une simulation de fourmilière, voilà, avait confié à Iwai la création d'un SimTunes, qui était... Alors, on peut pas tout à fait parler d'un jeu vidéo, on verra qu'avec Iwai, c'est toujours un peu difficile de parler de jeu vidéo, mais qui était plutôt une sorte d'application interactive, musicale et visuelle. Entre autres, on jouait avec des couleurs qu'on mettait sur un damier, puis on faisait parcourir un peu comme un espèce de courant électrique qui changeait de sonorité selon la couleur du damier sur lequel il passait. Et puis, Nintendo va se tourner vers lui il y a quelques années, au moment du lancement de sa console DS, que vous connaissez, avec un écran tactile et un stylet, et Iwai va proposer un jeu assez étonnant qui s'appelle Electroplankton. Alors là, toujours, on sera un petit peu, parfois un petit peu difficile de parler de jeu, c'est une application interactive, mais enfin, quel est le but de cette application? Il n'y a pas de but très précis qui soit dessiné très précisément, mais en tout cas, ça permet d'interagir avec des formes un peu organiques qui vont produire des sons. J'y mets par exemple des gouttelettes que vous allez envoyer sur des feuilles et puis qui vont tomber d'une feuille à l'autre en produisant chaque fois un son différent, ou des espèces de toiles d'araignée que vous allez étirer et auxquelles vous allez donner des formes et qui là vont aussi avoir un effet sur des circulations qui se font sur ces toiles. Mais voilà, en tout cas une application assez étrange, assez étonnante, avec un design, vous avez une image en bas à droite là, assez épurée, très peu de couleurs, ou juste des dégradés autour d'un seul ton, hein. Chaque écran, il y a 10 formes d'applications différentes, 10 dispositifs différents qui ont été pensés, puis chacun un petit peu sa tonalité chromatique bien marquée. Donc ici, vraiment, là, pour le coup, on retrouve un peu le principe de quelqu'un qui est issu d'un domaine tout à fait reconnu, celui de l'art contemporain, l'art numérique. Le deuxième, il est un peu plus étonnant. Il s'appelle Tetsuya Mizuguchi, il est né dans 65, et lui, il est vraiment game designer, il travaille chez Sega, il travaille par exemple dans un succès de la simulation automobile du milieu des années 90 qui est Sega Rally, hein, et entre autres, il va être le game designer de ce jeu de course, hein, cette simulation de course. D'ailleurs, il a un discours qui est assez construit, hein, quand on lui demande de parler de Sega Rally. Il dit j'ai pensé le jeu comme un rapport à la nature. Et c'est vrai que dans la manière dont, entre autres, il a porté un soin à l'environnement, à trois environnements différents, hein, le jeu est assez faible en contenu, hein, mais en tout cas, la savane, la montagne, le désert, enfin, il y a la jungle, il y a plusieurs environnements qui sont proposés comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui intellectualise un petit peu son discours sur le jeu vidéo. Et puis, il va travailler sur des productions musicales, il va s'intéresser à la musique. Ce qui va l'amener au début des années 2000 et pendant cette décennie à produire différents jeux qui interrogent toujours cette question du jeu, de l'interaction, des couleurs et de la musique. Hein. C'est à peu près autour de ces thèmes qui réfléchit. Donc il y a un jeu qui est lancé à l'époque sous un nom de code qui est K-Project, et le K en fait signifie Kandinsky, le projet Kandinsky, et qui travaille la notion de synesthésie. Donc le jeu sort, il s'appelle Rez. C'est un genre très codé, qui est le rail shooter, hein, c'est-à-dire en général une navigation en 3D, en profondeur, qui est préprogrammée par la machine. Et puis le joueur doit diriger une petite mire pour tirer sur des éléments. Ce qui intéresse Mizuguchi dans ce jeu-là, c'est la rythmique d'une certaine façon du jeu, hein, et la manière dont les interactions qui vont être celles du joueur vont produire une phrase musicale. Et il travaille à ce moment-là avec des artistes de la scène électro-japonaise. Alors je vous montre tout simplement le premier niveau en fait de Rez. Je vous en montre juste quelques minutes. Alors attendez, parce que ça. Alors, donc voilà l'écran de jeu de Rez. Donc vous voyez qu'il y a des choix graphiques qui sont allés vers les purs d'une certaine manière. Et donc le joueur doit passer un certain nombre de paliers qui chaque fois vont agrémenter une ligne musicale qui au départ est quasiment silencieuse. Et on va avoir un moment des breaks, des coupures, hein, d'une certaine manière, puis des reprises et puis une accélération du rythme. Et toutes les interactions qui sont celles du joueur, entre autres quand il lock, quand il capte une cible et puis quand il tire dessus, participent à l'enrichissement de la ligne musicale. Et on voit qu'en progressant, l'environnement s'enrichit également. Hein. Alors ça c'est un jeu de 2001 qui avait été d'abord publié sur la dernière console de Sega qui était la Dreamcast. Si vos enfants ont une Xbox 360, vous pouvez le télécharger sur le marché en ligne des applications Xbox, hein, qu'on appelle le Xbox Live Arcade. Ça doit coûter 8€ ou quelque chose comme ça. Et je vous le recommande très très chaudement parce que, enfin, en plus là, vous avez des images avec un son qui est pas très très bon, mais quand vraiment vous êtes devant votre écran avec la manette qui vibre en plus de ça, donc la question kinesthésique d'une certaine façon est aussi en jeu. La vibration de la manette, donc vous avez les pulsations, hein, de votre personnage, et entre autres vous sentez le rythme augmenter. Donc la version HD en plus a des graphismes assez fins, mais toujours dans ce dépouillement, hein, cette recherche comme ça d'une espèce d'épure visuelle, et qu'on est vraiment pris dans le rythme. Enfin, on sent d'un coup une expérience assez pleine, hein, au niveau des, avec Child of Eden qui est la suite, la suite de Rez. Enfin. Alors, ce qui est intéressant, c'est par exemple, je vous parlais de l'Agora d'Evry, qui est un directeur, quelqu'un qui s'occupe de la programmation numérique là-bas, avait sélectionné Rez avec 4 autres jeux pour les présenter dans une installation où les visiteurs étaient amenés à jouer avec vidéoprojection assez grande du jeu face à eux. Donc tout le côté immersif fonctionnait là parfaitement bien. Et ils avaient, l'année dernière, à l'occasion de la programmation, proposé à un super player, donc vraiment un joueur qui s'était spécialisé dans Rez, qui en connaissait toute la rythmique, etc., de produire une performance autour de Rez. Donc dans une salle de 1500 places ou quelque chose comme ça, enfin c'est une jauge assez importante, on s'est retrouvé avec une vidéo projection de Rez, le joueur au milieu des spectateurs, et il nous a fait Rez en entier, c'est-à-dire ça durait à peu près 40-45 minutes, quoi, quelque chose comme ça. Et pour le coup, ça marchait pleinement comme une performance, quoi, parce qu'on savait que s'ils se loupaient, bah la performance s'arrêtait. Hein. Il s'était donné une vie, donc voilà, il fallait quand une vie, il arrive jusqu'au bout. Il est arrivé jusqu'au bout. Enfin, moi qui ai joué à Rez et qui ai toujours été bloqué à la fin au même endroit où vraiment là j'y arrivais plus, mon cerveau et mes mains disjonctaient. Et puis j'ai pu tout analyser ses stratégies que j'avais même pas pensé pouvoir appliquer moi-même. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on était vraiment dans cette idée de performance. Voilà, ça se passe devant nous, ça peut s'interrompre d'un moment à l'autre s'il fait une erreur, s'il loupe un truc. Et lui a réussi à nous amener jusqu'au terme, donc jusqu'à la fin du dernier niveau du jeu. Il n'était pas satisfait parce qu'il n'avait pas tiré sur 99,9% des cibles. Mais là, c'était assez... Enfin, visuellement, même en tant que spectateur, quelque chose de tout à fait intéressant. Donc voilà, Mizuguchi, également, hein, il y a la suite de Child of Eden, enfin de Rez, qui est Child of Eden, que vous trouvez, d'ailleurs, qui est à prix cassé en ce moment. Et il y a également Lumines. Moi, je trouve un jeu un petit peu sur la formule du Tetris, mais là aussi qui joue sur tout un système de rythmique et tout un travail avec des designers sonores et qui est vraiment un jeu dans lequel on plonge très souvent pour des sessions assez prolongées qui est un objet tout à fait intéressant. Alors le dernier de ces créateurs, lui, il a aussi un profil un peu atypique. Là, il était il y a quelques années à Paris. Il était venu faire une conférence Keita Takahashi à côté de Tetsuya Mizuguchi, hein, créateur de Rez. Et donc lui a produit il y a 6-7 ans maintenant, oui, de 2004. Un jeu qui s'appelle Katamari Damashi. Vous avez à droite la couverture la jaquette du jeu, qui est elle aussi assez atypique parce que c'est tout simplement l'équipe de production du jeu devant les locaux de Namco au Japon. On est sur un principe ludique d'accumulation et d'exploration. J'ai l'habitude de dire qu'en fait Katamari Damacy est une simulation de bousier, vous savez, cet insecte qui pousse sa boule et qui la fait grossir, enfin une belle séquence dans Microcosmos sur le bousier. Donc c'est le principe du jeu, pousser une boule qui va attirer tout ce qui est de son échelle à elle. Ce qui fait qu'on est dans des situations absolument incroyables dans ce jeu-là. On va partir de l'échelle de ce bouchon de bouteille, dans un même niveau, hein, de l'échelle de ce bouton de bouteille, pour arriver à l'échelle d'un immeuble ou de la tour Eiffel, voire à l'échelle du cosmos. Enfin, des derniers niveaux du jeu nous fait partir d'une table d'écolier, et à la fin on accumule à nous les galaxies du système solaire. Donc on a une espèce de vertige de l'échelle dans ce jeu, et qui s'éprouve complètement par l'interaction. Alors c'est un jeu d'accumulation, bien évidemment, parce que il faut essayer d'attirer à soi le maximum de choses, d'exploration également, hein, sur des environnements qui sont inspirés du Japon contemporain très souvent. Il y a l'héritage de Pac-Man, et c'est pour ça que quand je parlais de création collective, c'est un jeu Namco, et Namco dans les années 80 a fait Pac-Man, qui était aussi sur cette logique d'accumulation, de dévoration de l'espace, etc. Et on retrouve tout à fait la même idée développée au sein de ce jeu. Et puis c'est une direction artistique assez originale, parce que elle fait un choix esthétique radical, qui est le choix de refuser le photoréalisme. C'est pas du tout l'enjeu de ce jeu-là, alors même qu'il est produit à une époque où l'arrivée des PlayStation 2, Xbox, et puis des consoles qui se préparent font que la course au photoréalisme est relancée du côté du jeu vidéo. On est dans un objet, dans un jeu qui rappelle énormément le théâtre d'objets, hein, on va comme ça manipuler des éléments du décor, etc. Et puis ça recycle, il y a un recyclage dans ce jeu-là de l'iconographie publicitaire, de l'imagerie propagandiste aussi. Alors ça, il faudrait que je vous montre la cinématique d'introduction, mais j'ai préféré là comme extrait vous montrer pour conclure simplement une séquence du jeu lui-même. Alors désolé pour le son à nouveau. Donc, Donc voilà comment commence la séquence. Alors, on incarne le scénario est complètement surréaliste. On incarne le prince du cosmos et on doit faire des catamaris pour le roi du cosmos. Hein, et ces catamaris sont transformés en planètes. Voilà, grosso modo, ce qui se passe. Donc voilà l'environnement de départ. Hein, le prince du cosmos, c'est le petit motif que vous avez là, mais très rapidement, on va plus du tout le voir. Bon, alors bien évidemment, il y a un principe exponentiel, ce qui fait que 9 minutes plus tard, voilà, et donc dans une session de jeu qui dure, je sais pas, 40 minutes, après on arrive à des échelles où on attire à soi un Godzilla, la Tour Eiffel, enfin des éléments complètement farfelus, mais dans une expérience voilà d'accumulation qui est tout à fait intéressante. Voilà, donc ce Tetsuya Mizoguchi quand même. Là aussi, hein, je disais un profil un peu particulier parce que lui est sorti d'une école de design et d'art également. Et voilà des images qu'il nous avait présentées il y a quelques années. Donc en haut à gauche, vous avez une table basse. Voilà, c'était son projet. Donc le jour de rendu des projets, il arrive avec sa table basse auprès de ses examinateurs. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait une table basse. Ah bon? Mais c'était pas. Enfin, mais regardez, ma table basse, elle se transforme en robot. Et donc vous avez la transformation ici de la table basse, puisque les pieds. Donc on peut faire le robot avec sa petite tête de robot un peu à la Goldorak, hein, inspiré de ce genre de l'animé. Et puis, alors là, c'était des objets jeux de mots en fait. Il y en avait un qui s'appelait, enfin, hippo. Alors hippo pour hippopotame, mais hippo qui veut aussi dire caché en japonais. Donc c'était un objet qui cachait en fait une boîte de mouchoirs en dessous. Et il y avait le même jeu de mots, mais là je suis désolé parce que je l'ai oublié, autour de cette chèvre qui était en fait percée. Donc il y avait des fleurs, on les arrosait, puis l'eau passait par les pieds de la chèvre. Et le nom de l'objet, d'une certaine façon, était un jeu de mots autour de ça. Donc là aussi, hein, un profil intéressant. Qui vient du design, qui a beaucoup travaillé sur la sculpture, les installations, qui est passé par le domaine du jeu vidéo, puis lui s'est très vite lassé du succès, parce que Katamari Damacy a été un succès au Japon, hein, très largement, enfin le Namco a été complètement dépassé par les ventes, donc comme enfin dans toute logique capitaliste, on a fait une suite, puis une suite, une suite. Au bout de la deuxième suite, lui, il a décidé de quitter Namco, et aujourd'hui il travaille sur des projets de parcs d'attractions pour enfants en fait. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que son Katamari et tout l'univers qu'il a développé autour de Katamari Damacy a essaimé beaucoup plus largement dans la culture populaire, la fan culture, etc. Donc on retrouve des gens qui se déguisent en roi du cosmos, par exemple. On retrouve des... Là, vous avez au milieu un gâteau en forme de Katamari. Des gens font des tricots. Vous pouvez trouver des patterns de tricots sur Internet ou des performances. Par exemple avec des étudiants qui, je sais plus, c'était en Californie, avaient sorti un catamaran dans la rue et ça avait commencé à rouler sur les gens pour essayer de les attirer sur le catamaran. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vraisemblablement, il y a une génération de gens aujourd'hui qui produisent de l'image, qui jouent aux jeux vidéo. Si je vous montre cette publicité d'il y a 3 ans... Voilà, donc pour une marque de chewing-gum. Mais on voit ici hein, que le spectaculaire visuel de Katamari Damacy, alors ce principe visuel-là, j'ai trois autres publicités qui l'ont exploité hein, depuis 3-4 ans, une publicité pour une assurance. Voilà, ce qui montre aussi cette circulation d'images, d'imaginaire entre les objets. Alors pour finir, quelques pistes de réflexion. Là, je vous ai montré, à part Katamari Damacy, qui n'est pas forcément le cas le plus présenté, mais dès que vous vous retrouvez dans un débat dans lequel on va avoir un responsable institutionnel, un game designer reconnu, en général c'est David Cage, Eric Viennot, enfin il y en a à peu près 4-5 qui sont habitués de ça, même si je les aime beaucoup, hein, et un journaliste, le jeu vidéo comme art, en général on vous sort ICO, Rez, Shadow of the Colossus, ICO, c'était l'image qui était sur mon slide d'introduction. On trouve en fait des objets, des jeux vidéo qui sont culturellement légitimes, c'est-à-dire qui se basent déjà sur des domaines artistiques légitimes ou en voie de légitimation. Rez, on a bien vu, Kandinsky Project, on a quelque chose qui est intellectualisé autour de la synesthésie, etc. ICO, c'est un jeu qui s'inspire énormément du peintre Giorgio de Chirico, et entre autres, tout le traitement de l'univers graphique est très largement basé sur cet objet-là. Donc, d'une certaine façon, ces bons objets vont être largement utilisés, mais ce sont des bons objets. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà largement inscrits dans une culture légitime. Et puis il y a des jeux vidéo culturellement légitimes. Même si j'aime beaucoup ICO, je me demande si Tetris n'est pas un objet qui pense à un rapport au monde complètement inédit et que seul, d'une certaine façon, le jeu vidéo pouvait proposer cela. Grand Theft Auto, bah, il souffre de sa mauvaise réputation, de son caractère sulfureux, du motif de la violence, et ses détracteurs semblent oublier que Griffith a fait naissance d'une nation et que Scorsese a fait le casino ou les affranchis. De même, voilà, Super Mario Galaxy 2, moi, il me semble être un des jeux qui interroge un rapport au corps et à l'environnement de manière tout à fait singulière, même si c'est un des jeux qui s'est probablement le plus vendu l'année dernière, etc. Donc, il y a ces mauvais objets-là qui seront, d'une certaine façon, dont on ne va pas encore reconnaître leur capacité à produire des images, produire des rapports à l'image, produire des rapports au monde qui sont peut-être tout à fait innovants et intéressant. Alors, il y a un terrain immense que j'ai pas évoqué ici, parce que moi je suis resté sur des objets du marché d'une certaine façon, qui sont inscrits chez des éditeurs, qu'on trouve dans les magasins de jeux vidéo, etc. Mais je vous envoie par exemple vers un site qui s'appelle Oujvipo, ouvroir de jeux vidéo potentiels, vous voyez la référence, qui recense sur internet, donc c'est en général des browser games, des jeux qui se jouent sur un navigateur, hein, donc vous avez juste besoin d'avoir un plugin flash et un navigateur à jour, ce site, qui est un site français qui a été monté par un étudiant en game design, propose toute une série de jeux, de petites applications tout à fait intéressantes, et peut-être là vous pourrez trouver pour vous des objets à étudier ou à intégrer à des logiques peut-être plus pédagogiques, en tout cas d'un jeu vidéo un peu autre que celui du supermarché au champ du coin. Moi je vous renvoie vers un ouvrage qui est sorti il y a bientôt 2 ans, qui est Des Pixels à Hollywood, sur particulièrement la relation cinéma et jeux vidéo. On le trouve sur Electre, tous les CDI peuvent le commander sans problème. Et puis, je vous renvoie vers des ressources en ligne. J'appartiens à l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, c'est un collectif de chercheurs qui s'intéresse au monde numérique, aux usages du numérique. Et donc vous avez pas mal d'articles là-bas sur le jeu vidéo, d'un point de vue alors psychologique, qui est quand même celui qui est le plus médiatisé, mais également du côté des sciences politiques, de la géographie, la géographie des mondes numériques. On a quelques articles sur le sujet. Je vous renvoie vers des collègues de Montréal qui ont créé un groupe de recherche qui s'appelle Ludiciné, sur cinéma et jeux vidéo. Vous les trouvez sur ludiciné.com. Tous leurs articles sont disponibles en ligne. Et puis, moi-même, j'ai un blog qui s'intitule Jeux Vidéal. Vous le trouvez à l'adresse jeuxvidéal.com. Et puis, vous me trouvez facilement sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie.